puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Les 4 et 5 octobre 2018, l'Association nationale des professionnels et acteurs du sanitaire, social, médico-social pour l'enfance et la famille, l'ANPAS, organisait à Roubaix deux journées de formation sur la problématique des violences conjugales, intitulée « De la violence conjugale aux violences intrafamiliales ». L'ANPAS pose le problème de l'accompagnement de l'enfant victime de ces violences. Éloi Lemaire, éducateur de formation, a fait carrière dans la protection de l'enfance. Il est l'un des organisateurs de ces deux journées de formation.
Ça fait maintenant 2 ans qu'on est en préparation avec des réunions de commission entre nous pour à la fois clarifier le sujet et puis faire le choix des intervenants. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces 2 ans de travail de commission en collectif, quoi, de professionnels. Alors, de collectifs de professionnels qui viennent de différents établissements, publics et privés, et qui occupent différentes fonctions des établissements.
Donc, c'est-à-dire, vous souhaitez éclairer l'approche des professionnels sur cette question des violences conjugales ?
Alors, on est tous professionnels confrontés à un moment donné à des situations de violences conjugales. Là, l'idée, c'était qu'on s'arrête, on se pose et on essaie de voir ce qui s'y passe et on essaie d'y comprendre quelque chose, particulièrement du point de vue des enfants. Et donc, c'est ça qui a conduit à cette démarche d'aujourd'hui.
Pourquoi les enfants, justement ?
Pourquoi les enfants ? C'est parce qu'on est tous du champ, principalement du champ de la protection de l'enfance. Donc, c'est à la limite, c'est notre mission première dans le cadre de notre profession, quoi. Alors, il y a parmi nous des professionnels aussi qui s'occupent des adultes, hein, mais principalement, on est les professionnels qui s'occupent d'enfants. D'où ce choix de s'intéresser aux enfants. D'autre part, lorsqu'on évoque les violences conjugales, le plus souvent, on évoque les auteurs, les victimes, et très peu souvent, on évoque les enfants.
Quel statut ils ont, ces enfants ? Ils sont victimes collatérales, victimes à part entière ?
Alors, moi, je pense que c'est des victimes à part entière, ce qu'on ne mesure peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a le côté, ce que disait l'intervenant ce matin, il y a le côté événementiel, il y a ce qu'on voit, ce qui attire l'attention, ce qui va, hein, en particulier lorsqu'il s'agit de violences physiques, de drames familiaux. Et on oublie ce que vivent les enfants, hein, qui, eux, généralement, n'occupent pas le devant de la scène à ce moment-là.
Et le travail de l'éducateur, de l'accompagnant, c'est quoi à ce moment-là à travers les enfants ? C'est de le mettre d'abord dans un milieu sécur s'il y a un danger immédiat et de lui proposer d'avancer malgré tout, de faire le travail nécessaire pour se bâtir, se reconstruire ?
Alors, pour moi, le travail premier, c'est... je pense qu'avec les parents, même des parents qui suivent des situations de maltraitance et de violence conjugale, il est possible de parler de la sécurité de leur enfant. C'est peut-être un point sur lequel ils peuvent être d'accord, c'est-à-dire mettre en sécurité l'enfant ou penser à la sécurité de leur enfant. Et pouvoir après prendre ou non des mesures de protection de l'enfant qui ne sont pas forcément du placement. Ça peut être faire appel à un membre de la famille pour qu'il s'occupe de cet enfant pendant que le couple se règle ses difficultés ou tente de les régler, quoi. Ah.
On a du mal parfois à comprendre que le lien soit absolument maintenu avec les deux parents quand l'un des deux parents s'est montré déficient ou violence. Pourquoi cette volonté de ne pas couper absolument le lien entre enfant et parent ?
Alors, d'une part parce que c'est dans la loi. Hein, la loi a beaucoup évolué ces dernières années et renforcé la place des parents, renforcé l'autorité parentale. Donc, ça nous amène de fait à devoir travailler avec ses parents, devoir à la limite tout faire pour que l'enfant puisse être maintenu dans des liens avec les parents. Maintenant, j'ai une position un peu critique, hein, c'est-à-dire que ça ne peut pas être à tout prix, à n'importe quel prix. Hein, il y a à se focaliser, à se décaler des situations parentales pour se préoccuper des enfants.
C'est compliqué que d'obtenir de la justice finalement, que malgré la loi, le lien ne soit pas absolument maintenu.
Alors, il n'y a pas lieu d'avoir des ruptures de lien. Dans le passé, il y avait une politique qui était une rupture de lien. Le lien, il existe. Un lien d'attachement, ça existe. Vous pouvez être séparé par des kilomètres et par le temps. Ce lien d'attachement va persister malgré la distance, malgré le temps. Donc ce lien existe. Donc il ne s'agit pas de couper des liens. Il s'agit de mettre des enfants à l'abri. Au jour d'aujourd'hui, les juges des enfants se situent dans le cadre de la loi, de l'application de la loi, qui est d'abord d'essayer toutes les mesures de collaboration avec la famille avant d'avoir des mesures qui sont plus autoritaires, de placement.
On a eu des intervenants ce matin à la tribune qui nous ont dit « Nous, éducateurs, on ne doit pas être dans le jugement. On arrive, ça, à prendre la distance nécessaire ?»
Alors, moi, je pense que ça fait partie du côté professionnel, que ça se travaille. Maintenant, on est tous pris dans nos émotions. Une façon d'être moins, c'est peut-être de travailler en équipe. L'équipe peut réguler quand on est trop englué dans une situation. Il y en a aussi de l'analyse pratique qui permet de prendre un peu de distance. Mais les émotions, on les a. Si je refuse d'accepter mes émotions, quand je vais rencontrer tel parent, tel monsieur, telle dame, ça va m'encombrer, ça va se traduire dans mes propos, dans mes attitudes corporelles. Donc il y a accepter ce qu'on ressent et faut pas le nier. Après, c'est professionnellement, situation, voilà ce que je suis censé faire à ce moment-là. C'est là que ça se joue.
Quel regard vous portez-vous maintenant vous n'exercez plus voilà, mais aux moyens qui sont donnés à vos collègues dans les états de structure, obligés de se restructurer, de signer avec les financeurs des contrats d'objectifs et de moyens parfois compliqués qui font qu'on baisse le nombre d'effectifs, on rabote également les moyens. Aujourd'hui, on a notamment les moyens nécessaires pour avoir une aide efficace à la personne.
Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect positif des choses, c'est que le fait de signifier aux établissements et aux services qu'ils auraient moins de moyens, ça les a obligés à se transformer, à être innovants, à se transformer, à pu faire comme on a toujours fait, etc. Ça, c'est l'aspect positif des choses. L'aspect négatif des choses, c'est que les mesures qui sont mises en place pour des raisons économiques. La mesure qui visait à s'arrêter les contrats PGM à 18 ans dans le département du Nord, ça a conduit plein de jeunes à se retrouver à la rue du jour au lendemain.
Allocation pour jeunes majeurs à PGM.
Oui, c'est ça. Le fait de prôner à tout prix le placement à domicile, c'est un mode d'accompagnement très pertinent, sauf qu'il n'est pas pour tout le monde. Or, c'est devenu la règle pour des raisons économiques. Ça coûte 4 fois moins cher qu'un placement. Qu'on le mette en place, oui, mais qu'on le mette en place pour des raisons strictement économiques, on va en payer le prix, enfin les enfants vont en payer le prix dans quelques années, parce que le maintien à tout prix dans les familles fera qu'on aura des gamins extrêmement abîmés dans les années qui viennent.
Ça va être un enjeu de société, un enjeu de choix politique, clairement expliqué.
Oui, de toute façon, on peut dire que c'est de l'économique, c'est de la politique, c'est de l'idéologie. L'idéologie que si on met plein de moyens en accompagnement les enfants à domicile pendant 6 mois ou 1 an, ça va régler tous les problèmes, c'est de l'idéologie. Ça marche dans certaines situations, dans d'autres, on recule au moment où il va bien falloir trancher et placer les enfants.
Éloi Lemaire, éducateur en protection de l'enfance. Nous sommes donc à Roubaix pour ces 2 journées de formation organisées par l'EMPAS sur la question des violences conjugales aux violences intrafamiliales. Intervenante durant ces 2 jours, Sandrine Ballonnet, référente départementale violences conjugales pour le département du Nord, également directrice de l'association Louise Michel qui vient en aide aux femmes victimes et à leurs familles. Sandrine Ballonnet a ouvert son propos en faisant le distinguo entre le conflit conjugal et la violence conjugale.
Un conflit, c'est banal dans un couple. Ça reste quelque chose qui est de la normalité. Voilà, on cherche à imposer un point de vue et en tout cas, on ne sait jamais à l'avance l'issue d'un conflit. C'est un système de relations complètement égalitaire dans un couple et c'est normal. Par contre, quand vous êtes en système de violence conjugale, vous n'êtes plus dans une relation égalitaire d'un couple. Vous êtes vraiment dans une situation où l'un des partenaires, l'agresseur, veut à toute fin imposer son point de vue.
Et avant une violence physique, on remarque à chaque fois qu'il y a une autre forme de violence qui constitue le cercle dans lequel on va tendre le piège à la victime.
Oui, alors dans les relations violentes, de toute façon, avant de passer à l'acte physique, c'est forcément verbal et psychologique et on amène. Le partenaire agresseur veut amener de toute façon pour imposer son point de vue et imposer sa domination, il faut conditionner. C'est un conditionnement, ni plus ni moins. Donc pour cela, il faut passer par des systèmes d'agression et l'agression psychologique, c'est avant tout d'entrer dans l'estime de la victime, l'estime de soi. Il faut la détruire. Il faut la détruire pour reconstruire un modèle de prise de conscience de la victime, qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'est rien, et que lui, c'est mieux qu'elle, tout ce qui est bon pour elle.
Et ces victimes deviennent convaincues du message qui est répété jour après jour. Elles pensent qu'effectivement l'auteur a raison, ce qui peut expliquer une partie de l'enfermement et puis également une domination économique parfois qui existe.
Tout à fait, parce qu'une victime, à partir du moment où vous lui répétez, et d'autant de son partenaire intime, celui qui la connaît le mieux, elles sont persuadées qu'effectivement, comme il connaît toutes ses failles et toutes ses blessures intimes, lui-même est seul à pouvoir savoir ce qui est bon ou pas pour elle. Donc à l'extérieur, elles ont une image qui est parfois complètement erronée d'elles-mêmes, quand bien même elles travaillent. Parce que dans la sphère privée, de toute façon, c'est lui qui sait, c'est lui qui juge et c'est lui qui impose. À partir de là, elles acceptent toute forme de violence, y compris la violence économique, y compris la violence sexuelle, y compris la violence verbale, toutes les formes et y compris la violence physique, bien entendu, qui reste quand même présente, mais où elle va être moins visible. C'est vrai que nos auteurs s'adaptent aussi à l'évolution de la législation en France et laissent de moins en moins de traces visibles. Par contre, quand vous découvrez ces victimes, vous allez vous apercevoir qu'il y a des traces.
Et parce que parfois, cette violence est vraiment dans le cadre de l'intimité, notamment quand il est du ressort des violences sexuelles, voilà, forcées aux pratiques sexuelles, le viol, parfois même jusqu'à la prostitution forcée du partenaire.
Tout à fait. Les femmes, alors, pour accompagner, et notamment les femmes, quand le lien de confiance avec le professionnel est établi, elles parlent assez facilement de toute façon des relations sexuelles imposées. Alors à partir de là, il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est un viol conjugal. Mais c'est vrai que c'est encore assez tabou chez nous. Le viol conjugal, d'abord, on a du mal beaucoup à le prouver. Et pour les victimes, le mot viol, ça reste une agression qui ressemble plus à quelqu'un qui est fait par quelqu'un de l'extérieur. C'est compliqué de se dire qu'on a été violé par son partenaire intime. Pour autant, quand elles expliquent, elles comprennent très bien que la relation, de toute façon, n'était pas consentie. Et qu'à partir du moment où on cède à une relation, ça relève de l'ordre du viol, tout simplement.
Sur ces journées d'études, il sera également question de l'enfant, parce que on a tendance à l'oublier. Parfois, dans un foyer, il y a des enfants qui sont témoins, beaucoup plus que témoins. Vous dites également, l'enfant témoin est une victime.
Tout à fait. On est passé du stade à l'enfant témoin, parce que l'enfant témoin, ça suppose qu'il est là, qu'il nous regarde et que finalement, tout glisse. Non. Un enfant qui est dans un milieu de violence conjugale, c'est un enfant exposé. Et un enfant exposé, c'est une victime directe. À partir de là, on sait, et les études les démontrent toutes, qu'un enfant exposé à la violence conjugale est un enfant qui aura les mêmes répercussions que s'il en était la victime directe. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est vraiment important.
Comment on vient en aide à cet enfant? Parce qu'on a également l'impression, on entend souvent dire, cet homme, parce qu'il s'agit quand même généralement des hommes, cet homme est violent, mais son père était également violent. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de fatalité dans le mécanisme, une réplication de génération en génération.
Alors ça, il faut sortir justement de ce modèle et de se dire qu'on protège la mère, on protège l'enfant. Il faut effectivement être attentif à ce qui se passe dans ces familles-là et arrêter de penser qu'un enfant qui est isolé dans une pièce à côté sera forcément protégé de la violence. Non, il faut vraiment aider ces femmes à pouvoir en parler, parce que si on libère la parole, eh ben, c'est une protection en cascade qui va s'opérer. C'est qu'elles vont être à même de pouvoir sortir de cet enfer de la violence, et à partir du moment où elles sortent de l'enfer de la violence, on sort les enfants également.
Le conjoint violent, il s'est pas aimé?
C'est pas une question d'amour dans cette histoire-là, c'est une question de mode de communication à l'autre, tout simplement. C'est juste qu'il ne sait plus dire en mots, M-O-T-S, les mots qui sont en lui, les mots M-A-U-X, et que sa communication verbale, elle s'arrête parce que les poings prennent le dessus ou que la parole violente prend le dessus. C'est un mode d'expression à l'autre, il faut absolument apprendre à déconstruire. Voilà.
Il est important aujourd'hui de venir en aide aux victimes, il faut les protéger tout de suite, immédiatement, avant qu'il y ait des drames. Il faut enrayer le fléau, il faut éduquer très jeune, je pense. Mais pour les auteurs, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la thérapie? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'on peut se poser la question également de ces hommes. Qu'est-ce qui se passe après? Même s'il y a séparation, s'il y a jugement, qu'est-ce qui se passe pour eux après?
Il faut absolument que les auteurs de violences aussi entrent dans un système de prise en charge spécifique et adapté. C'est compliqué de se dire spontanément, je suis auteur de violence, je veux aller consulter, je veux comprendre ma violence. Oui, mais ça, ce système-là du volontariat a ses limites, parce qu'à un moment on se confronte à ce qu'il y a de plus noir en soi et qu'on n'a pas franchement envie d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, oui, ça passe par une répression et par une voie judiciaire où il peut y avoir une obligation derrière de prise en charge des auteurs, soit dans des groupes de responsabilisation, soit via des thérapies, mais en tout cas, il faut absolument que ce soit adapté et que ce soit une obligation d'aller jusqu'au bout du processus pour comprendre et pour vous pouvoir appuyer sur les mécanismes, parce qu'il n'y a pas de fatalité, hormis peut-être pour une catégorie très très spécifique, le fameux pervers narcissique dont on entend parler dans tous les médias, mais qui reste quand même une catégorie somme toute très 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 isolée et infime. Donc oui, il y a des tendances perverses, il y a des tendances narcissiques, mais comme dans tout à chacun. Un auteur de violence conjugale peut très bien reprendre une relation avec une autre personne, attention quand même, non violente, à condition qu'il ait travaillé sur sa violence, qu'il l'ait comprise et qu'il sache voilà, qu'on lui ait appris aussi à déconstruire tout ce qu'il y a derrière cette réponse violente à quelqu'un qui va lui tenir tête ou à quelqu'un qui veut s'estimer son égal.
Alors, dernière question. C'est important la médiatisation aujourd'hui, parce que ça, le message s'adresse aux femmes qui aujourd'hui seraient dans cette situation. Des solutions existent, il faut parler, il ne faut pas rester comme ça. Protégez-vous, protégez les enfants, ne vous laissez pas faire. Mais la médiatisation également, parfois assez noire, de faits divers, excusez-moi pour le terme faits divers, même si c'est des drames, d'hommes qui en viennent à passer à l'acte, tuent femmes et enfants, ça... provoque également une situation de peur pour celle qui est sous la menace quand le conjoint dit « mais je vais tous vous buter ». Quand on voit qu'il y a des passages à l'acte, c'est quand même assez compliqué. Il y a une responsabilité également des médias dans tout ça, au milieu de tout ça, pour organiser mieux notre société.
Alors, les médias, oui, déjà, il faut en parler, peut-être en parler plus, déjà, tout à fait, et de dire ce qui existe. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire le focus, peut-être, sur les drames qui se passent, et peut-être expliquer, via les médias, qu'il y a des solutions. Et qu'en martelant qu'il y a des réponses, et que si chacun, de sa place, peut faire le travail autour des victimes, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui existent, on a des très bonnes choses, mais c'est vrai qu'il faut un moment pouvoir tous se coordonner, tous travailler ensemble et être un peu plus visible et de plus en plus visible. Et bien ça aidera les victimes. Et puis que chacun et tout citoyen, parce qu'on a tous une responsabilité, c'est une responsabilité collective finalement. La violence conjugale, c'est quand même quelque chose qu'on a laissé traîner en se disant que c'était un peu du domaine de la normalité et que derrière les portes se passait ce qui se voulait. Eh ben non, c'est de dire qu'à un moment, à la moindre petite chose qui nous semble, nous, citoyens, bizarre, eh ben qu'on puisse alerter et s'en mêler, tout simplement.
Voilà, votre association, il y a un site, on vous trouve facilement sur le moteur de recherche.
Oui, 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 il y a un site qui s'appelle associationlouisemichel.com. Voilà, vous tapez sur Villeneuve d'Ascq, il n'y a aucun souci et vous aurez toutes les informations que vous souhaitez.
Sandrine Ballonnet, référente départementale violence conjugale pour les départements du Nord et directrice de l'association Louis-Michel. On se retrouve dans La puce à l'oreille pour la suite de ce forum organisé par l'AMPAZ intitulé « De la violence conjugale aux violences intrafamiliales ». Ce sera juste après Mano Solo.
Radio Scarpe Sensé, La puce à l'oreille.
Sentiments qui nous ressemblent, des sentiments tous ensemble, des sentiments pour tout prendre, des sentiments qu'on attend, des sentiments dans le sang, des sentiments sans un frein, des sentiments pour demain, des sentiments dans la tripe, des sentiments qui nous excitent, sentiments qui nous agitent, des sentiments qui s'extirpent, sentiments qui nous gagnent, des sentiments qui nous soignent, sentiments qui transpirent, sentiments qui nous inspirent, sentiments où rien ne s'efface, sentiments sans attache, des sentiments apaches, des sentiments sans relâche, des sentiments qui nous parlent, des sentiments qui nous alarment, des sentiments qui nous tuent. Quand d'amour et de plaisir on n'en peut plus, mes sentiments sont pour toi, mes sentiments valent pour toi. Des sentiments tous ensemble, des sentiments pour tout prendre, des sentiments qu'on attend, des sentiments dans le sang, des sentiments sans un frein, des sentiments pour demain, sentiments dans la tripe qui nous excite, qui nous agite, qui s'extirpe, qui nous gagne, qui nous soigne, qui transpire, nous inspire, rien ne s'efface sans attache. Apache sans relâche, qui nous parle, nous alarme, qui nous tue. Tant d'amour et de plaisir, on n'en peut plus. Mes sentiments sont pour toi. Mes sentiments valent pour toi.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Aujourd'hui, retour sur les deux journées de formation, les 4 et 5 octobre 2018, organisées par l'AMPAZ, Association nationale des professionnels et acteurs du sanitaire social et médico-social pour l'enfance et la famille. Organisées à Roubaix, ces deux journées portées sur les violences conjugales et violences intrafamiliales. Intervenant dans le cadre de ces journées de formation, je propose d'écouter Wilfried Magnier. Il est psychothérapeute familial et nous explique comment la violence devient un mode de communication.
C'est une communication particulière qui fait que dans le couple conjugal, l'amour s'exprime dans le tout ou rien. Soit je suis tout avec toi dans l'amour et en fusion, ou absolument sans toi dans la rupture. Et dans bien des cas, les couples amoureux, ils sont ensemble, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils se séparent. Et ils n'arrivent ni à vivre ensemble, ni à être loin l'un de l'autre. Et ils n'arrêtent pas de faire le va-et-vient entre rupture et fusion.
C'est-à-dire que c'est la zone de conflit qui manque au sein de ce couple, le moment du désaccord, mais on est capable de discuter ensemble ?
Alors, quand je parlais en fait des transitions, c'est-à-dire c'est la façon dont on s'autorise à pouvoir être avec l'autre, mais à distance de lui. C'est une chose qui arrive souvent. On peut être avec sa femme à côté d'elle et pouvoir penser à autre chose, être dans une rêverie. On peut s'absenter un peu tout en étant présent physiquement l'un à côté de l'autre. Dans les couples dont je parle avec de la violence, en fait, il est interdit de rêver. Il faut être l'un à côté de l'autre et être l'un dans l'autre. Je vais prendre un exemple qui m'a été raconté par une famille que j'ai eue en consultation. Elle devait être à côté de son mari et le regarder jouer aux jeux vidéo. Elle ne devait pas penser à autre chose pour elle-même. Elle devait le regarder constamment jouer. Et elle devait commenter aussi. Et lui pouvait jouer pendant 4 heures, 6 heures. Et elle n'avait pas le droit de bouger. Elle devait être assise à côté de lui. Cet exemple vient dire qu'il est difficile d'être dans des entre-deux psychologiques où on peut être à côté de l'autre tout en pensant à autre chose. Voilà. Le deuxième aspect, c'est qu'on peut être à distance de l'autre physique, c'est-à-dire elle peut être au travail, lui est à son travail, ils sont physiquement loin de l'un de l'autre, mais ils peuvent penser l'un à l'autre. Alors que dans le cas de la violence, ce que j'ai pu constater, c'est que quand ils sont séparés, c'est comme si l'autre cessait d'exister. Et ça, c'est épouvantable. La violence vient traduire aussi des tragédies psychologiques vécues. Comme ce sont des couples qui sont dans le tout ou rien, quand ils sont dans le rien, ça peut être perçu comme l'abandon total par l'autre. Il faut remédier à ça. Et l'un des remèdes, ça peut être la violence, mais ce n'est pas le seul remède.
L'enfant, il arrive parfois dans ces couples parce que malgré tout, ça n'empêche pas le désir, le besoin d'enfant dans ces couples.
Ah oui, parce que le type de communication, ce que je dis, c'est que c'est un type de communication conjugale. Évidemment, chaque personne a des désirs d'enfant et envie d'avoir un enfant. Le désir est pris dans le type de communication. Le couple a envie d'avoir un enfant. Ça, évidemment, c'est autre chose que la communication. Donc, ils prennent la décision d'avoir un enfant. Mais comme la communication, c'est du tout ou rien, l'enfant va s'introduire dans cette communication. Mais les parents vont charger l'enfant, le missionner, de leur propre espoir de se sortir de leur tout ou rien. L'idée, c'est que l'enfant, physiquement, va faire les transitions et qu'il va sauver, en fait, le couple du tout ou rien. Mais l'enfant va très vite découvrir qu'il ne peut pas faire mieux, qu'il va être vite en échec. Et il va essayer de se rapprocher du parent qui, à son jugement, est le parent faible qui prend les coups. Et donc, il va essayer de sauver le parent faible contre le parent fort qui est jugé comme étant l'agresseur.
Quitte à ce que parfois, le parent faible, à ce moment-là, lui en fasse le reproche et se retourne à ce moment-là sur l'enfant.
Toujours. Toujours, oui. Et là, l'enfant se sent abandonné. Et il se met à adopter les mêmes conduites de tout ou rien. Et quand ces enfants arrivent en protection de l'enfance, c'est un peu des paradoxes, parce qu'ils arrivent avec un type d'attachement qui est celui-ci, et les éducateurs demandent en fait, sans percevoir qu'il est il a des problèmes lui avec les transitions, problèmes pour réfléchir aux transitions, donc les éducateurs lui demandent en fait d'établir des projets éducatifs comme si c'était des enfants qui avaient un type d'attachement sécure. Parce qu'il est en sécurité dans un groupe de vie, parce qu'il est placé dans un groupe de vie, un peu magiquement, l'enfant devrait devenir sécure. Ce qui est faux, parce que les équipes éducatives s'aperçoivent très vite de l'échec éducatif dans la prise en charge de l'enfant. Et toute la question, c'est comment travailler avec la thérapie familiale et les équipes éducatives et les familles autour d'un rétablissement, d'un attachement sécure entre tout le monde, afin que les familles parviennent à se sortir des difficultés de violence, de négligence ou de maltraitance, qui récupère quelque chose du côté de la confiance dans le lien et que la protection de l'enfance sort de leur vie et qu'elle aurait été justement un appui, une étape importante de reconstruction.
D'où le besoin de travailler autant avec l'enfant qu'avec les parents. Sinon, ça ne sert à rien de maintenir le lien, parce que c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Voilà, des enfants qui ont été témoins et donc victimes de violences, on maintient le lien avec le parent violent. C'est quelque chose qu'on a parfois du mal à comprendre, nous, quand on n'est pas travailleur social. Et puis, ma dernière question, on va poser également sur le fait que l'enfant qui a été confronté à ça, est-ce qu'il y a une fatalité dans la réplication du modèle qu'il a initialement vu, connu ?
Alors, il n'y a pas de fatalité parce qu'il y a un grand psy que tout le monde connaît, c'est Cyrulnik, qui parle de résilience. Des fois, les enfants, eux, quand ils ont d'autres expériences que les expériences familiales, se laissent inspirer, par exemple, par la famille du petit copain ou de la petite copine, parce que ça fonctionne autrement. Le groupe de vie les inspire pour un lien sécure différent. Donc, ils sont des fois en capacité de reconstruire un scénario d'attachement sécure dans leur vie de futur adulte. Donc, il y a de l'espoir. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel, ce qui est important, c'est de travailler avec les familles et pas les laisser sur le banc de touche, et de toujours penser que le lien insécure a été intériorisé par l'enfant quand il arrive dans la protection de l'enfance, et qu'il faut surtout s'attacher au type de contact et comprendre le type d'attachement de l'enfant pour poser un projet éducatif qui soit adapté et ajusté à là où ils en sont, afin de ne pas les mettre en échec. Parce que c'est ce qu'on connaît dans la protection de l'enfance, quand l'enfant ou l'adolescent n'arrive pas à répondre de façon heureuse aux attendus d'une équipe éducative, l'équipe se sent en échec et le premier mouvement, c'est la réorientation dans un autre établissement. Et l'enfant va passer d'un établissement à l'autre et certains peuvent faire 20 établissements, etc., sans que rien n'ait bougé d'un iota. Donc, ma position en tant que thérapeute, c'est justement de travailler avec tout le monde. C'est difficile, des fois ça nous remue parce qu'on a une sensibilité et on peut être très éprouvé par rapport à la violence constatée, mais la formation qu'on peut avoir, c'est de surmonter cette violence et de comprendre les mécanismes et de mettre quelque chose, de rétablir un lien sécure avec les familles et les équipes éducatives et l'enfant pour que les choses s'améliorent. Et c'est réparable.
Wilfried Magnier, psychothérapeute. Toujours dans le cadre de ces journées de formation organisées par l'EMPAZ à Roubaix, la problématique des violences conjugales en France, de la violence conjugale aux violences intrafamiliales, je vous propose de nous tourner du côté de chez nos voisins belges et d'aller à la rencontre de Sandrine Botson, criminologue, et Barbara Snepper, psychologue. Elle représente le CFE de Liège, à savoir le collectif contre les violences familiales et l'exclusion, organisme qui lutte aux côtés des femmes contre les violences entre partenaires et l'exclusion socio-économique. Un collectif né des mouvements féministes.
C'est ça, donc c'est un mouvement qui est né dans les années 70, lié avec tout ce qui est la question des droits de la femme, la question de l'avortement, etc. Et donc une prise de conscience à un moment donné sur un territoire belge du constat que les violences conjugales sont existantes. Et donc ces violences conjugales sont rendues dans l'espace public. Et donc à un moment donné, des bénévoles prennent en charge la problématique. Et ces bénévoles créent une maison d'hébergement qui, au fur et à mesure des années, s'est institutionnalisée, évidemment, et est devenue pluridisciplinaire dans la prise en charge.
Avec une prise en charge également qui a évolué, vous le disiez tout à l'heure, issue d'un mouvement donc féministe, on oubliait finalement la place de l'homme autour de cette problématique quand il s'agit d'un homme, parce que la femme qui vient vous voir, elle vient raconter l'histoire d'un couple.
C'est ça. Au départ, le collectif s'est vraiment concentré sur la question de la femme victime. Et puis petit à petit, on a dû s'adresser d'abord à la question des enfants, qui étaient un petit peu ignorés dans la problématique, et leur place était ignorée. On les a d'abord considérés comme des enfants témoins, jusqu'à dire aujourd'hui qu'ils sont également victimes, même s'ils ne sont pas violentés directement. Et puis on a commencé à s'intéresser à la question des auteurs, des hommes, des compagnons, des pères, puisqu'ils sont sans cesse présents dans la problématique. Et les femmes et les enfants, ils parlent tout le temps du compagnon et du père, donc forcément on a dû s'y intéresser.
Puis vous dites, voilà, c'est vrai que ce qui est marquant, c'est l'acte tout de suite, mais l'acte violent fait partie du cycle de violence qu'on évoquait tout à l'heure. Et nous, on doit prendre en compte, finalement, non pas un fait marquant, mais toute une histoire, l'histoire de ce couple.
tout à fait. En fait, le film est important d'être déroulé. Si on se centre uniquement sur les actes, on est dans une incompréhension de la problématique. Parce que, comme on disait tout à l'heure, moi, je connais peu de gens qui se disent « Ok, super, aujourd'hui, je vais me mettre en couple avec quelqu'un qui ne va faire que des actes de violence. » Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important de contextualiser les choses. Personne ne resterait avec quelqu'un qui ne fait que agir de la violence. Et donc, ce système, c'est bien autre chose que la violence conjugale n'est pas égale à la violence physique ou aux agressions. La violence conjugale, c'est égal à un processus de domination conjugale. Qui dit processus, dit le fait que il faut autre chose que des actes. Et donc, il faut un mythe fondateur, il faut de la réconciliation, il faut des justifications. Ou sinon, le système ne tient pas. Donc en fait, c'est les agressions qui vont être un outil pour parvenir à mettre en place un processus de domination conjugale.
Donc vous cherchez à comprendre tout ça et puis vous dites, on fait attention également du moment où la personne s'adresse à nous. Peut-être qu'elle n'est pas encore prête à quitter. Et ça, nous, travailleurs sociaux, il faut qu'on le prenne en compte parce que avec tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire on peut l'éloigner, mais la laisser travailler encore la suite de cette relation avec cet homme.
C'est ça. Donc on va sans cesse se questionner sur là où la femme en est. Quelle est sa demande? On va vraiment écouter dans son discours où elle en est dans le cycle, où elle en est dans sa relation, et vraiment essayer de la rejoindre sur ce qu'elle souhaite. Et bien souvent, quand on écoute les femmes qui viennent nous rencontrer, elles souhaitent que la violence cesse, qu'il y ait des choses qui changent, mais pas nécessairement une rupture définitive. Et ça, il faut vraiment pouvoir l'entendre.
C'est compliqué à entendre, c'est même compliqué à imaginer. Ça arrive, ça, véritablement, que la violence puisse sortir du couple quand elle a été installée depuis longtemps.
Alors, on l'espère, sinon on ne travaillerait pas dans cette problématique-là. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite et on l'espère. Maintenant, voilà, ça dépend des situations. Il y a des situations de couple où il peut se passer d'autres choses, où la violence physique peut diminuer, où il peut y avoir une reprise de pouvoir de la femme dans la relation. Il y a certains hommes aussi qui décident un jour de se remettre en question. Chaque situation est unique. Mais nous, en tout cas, nous, on espère que la violence peut un jour sortir de ces situations-là.
Je vais vous poser une question, alors peut-être une question d'homme. La vengeance, ça fait partie du processus de reconstruction. On a envie, quand c'est comme ça, quand on a subi ça, on peut avoir envie parfois de vengeance. Et est-ce que la justice, à un moment-là, c'est l'outil de vengeance?
Ça peut l'être. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en effet, on peut voir certaines victimes qui vont... un petit peu se centrer dans leurs actes sur des procédures en justice qui n'en finissent pas, que ce soit au niveau civil ou au niveau pénal. Et donc c'est vrai que nous, là, on doit être vigilants en tant que professionnels à ne pas alimenter le processus de domination conjugale. Donc ça peut arriver, ça reste quand même exceptionnel, l'esprit de vengeance. Ce serait plutôt quelque chose lors de la reconstruction, mais ça, c'est un autre niveau. Mais si on est dans une situation d'esprit de vengeance, bien sûr que nous n'allons pas accompagner là-dedans. Nous, on n'est pas là pour alimenter le processus de domination conjugale. Ça reste des situations exceptionnelles, ça peut exister. Mais là-dessus, alors, nous sommes vigilantes et nous n'accompagnons pas, on va pas accompagner sur la judiciarisation intempestive des situations si l'intention est de, en effet, avoir un esprit de vengeance sur l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance.
J'ai bien compris. Et vous disiez également, même si on intervient sur des situations urgentes, prenons le temps de l'action dans l'urgence, et même avec les enfants, parce que les enfants ne sont pas dupes et comprennent bien ce qui se passe.
C'est certain. Donc, c'est vrai qu'une de nos priorités, en tout cas, c'est de sortir vraiment de l'urgence et de l'activisme, de prendre le temps de situer où en sont les gens, leurs intentions, etc. Alors, vous savez, depuis tantôt, je suis un petit peu titillée, un peu énervée, parce que depuis le matin, on n'arrête pas de nous parler de morbidité, d'homicide, de suicide, etc. Or, en effet, c'est une des réalités, peut-être, des situations de violence conjugale, mais heureusement que ça reste l'exception. Et donc, ça veut dire que, dans la majorité des situations, on a le temps. On a le temps. Maintenant, dans d'autres situations un peu plus exceptionnelles où il y a vraiment de la dangerosité au niveau passage à l'acte, homicide, etc., bien sûr que l'urgence est importante à ce moment-là. Mais c'est heureusement que ce n'est pas la réalité de toutes les situations. Sinon, nous, on ne travaillerait plus. Mais voilà. Donc, en effet, dans certaines situations, urgence parce que dangerosité, et dans d'autres, dans la majorité des situations, on peut prendre le temps. Parce que si on va trop vite, on risque de faire pire.
C'est le déroulé du film qui vous permet de mesurer la dangerosité finalement réelle à venir immédiate.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment important que les intervenants de terrain puissent avoir des outils de mesure de la dangerosité, de mesure de l'urgence. Parce que violence physique ne veut pas nécessairement dire dangerosité. Et donc ça, c'est vraiment là qu'il faut que tous les acteurs parlent le même langage et qu'on puisse se comprendre entre les services qui travaillent avec les victimes, les services qui travaillent avec les auteurs, les services de police, la justice, etc.
C'est au service de police. Justement, en France, on parle beaucoup de ça. Il faut sensibiliser et la justice et les forces de police à cette question. C'est véritablement aux forces de police d'être en mesure d'estimer si la personne est en danger ou pas?
Non, on ne peut pas leur demander ça. Chacun son mandat. Je pense que souvent, on essaye de trouver des solutions un peu uniques et linéaires. C'est-à-dire, qui dit violence conjugale dit « Ok, justice va régler tous les problèmes ». Je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience, c'est que lorsqu'il y a une prise en charge au niveau des violences conjugales, elle nécessite un décloisonnement. C'est peut-être une des infractions qui nécessite encore le plus de décloisonnement au niveau du monde social, médical et judiciaire et parajudiciaire. La justice ne peut pas tout régler. Et encore en plus de ça, c'est aussi la justice règle les choses, mais on oublie qu'il y a un lien étroit entre l'auteur et la victime. Donc il faut quand même une prise en charge à ce niveau-là, au niveau psychosocial aussi.
Et enfin, ce sera ma dernière question. Faut-il à tout prix, dans de tels cas, quand il y a des enfants au milieu de tout ça, maintenir le lien avec la personne qui a été violente? Parce que parfois, on a des travailleurs sociaux également qui disent, on travaille toute la semaine, nous avec la mère, ses enfants et tout, mais tous les 15 jours, on a l'impression qu'on va tout recommencer.
C'est une grosse question. Après, nous, on est en Belgique, et donc il faut faire aussi avec le paysage politique et sociétal. Nous, en Belgique, l'interruption de contact entre les parents et les enfants, ça arrive très très peu. Aujourd'hui encore, il y a un droit de garde qui est accordé aux deux parties. Donc je pense qu'on a plus à réfléchir aux dispositifs qu'on met en place, comment on accompagne, au comment. Et c'est ça aussi aujourd'hui, peut-être que nous, on essaye de sortir un petit peu de ce sentiment d'impuissance. C'est comment on met les choses en place pour essayer d'augmenter la sécurité de tous et la prise en compte de tous.
Ces temps de réflexion commune, qu'est-ce que vous attendez de ces journées?
Ben moi, je pense que ces journées, oui, que ce soit au même titre qu'en Belgique, pour moi, c'est des journées où les gens doivent parler, communiquer ensemble, se rencontrer et pas rester dans ces zones de confort. Si on reste tous dans nos zones de confort, les choses, elles ne changent pas non plus. Et je pense qu'il faut se solliciter, se questionner sur les mandats de chacun, etc. Je reste toujours très étonnée du peu de questions qu'il y a après les interventions. Je me dis, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'on est venu un petit peu chamboulé? Ou est-ce que les gens exercent leur mandat et puis dans du cloisonnement, je ne sais pas, sur le temps de midi, ce que ça va produire?
Sandrine Botson, criminologue, et Barbara Snepper, psychologue du collectif contre les violences familiales et l'exclusion de Liège. On retrouvera demain dans La Puce à l'oreille d'autres intervenants, eux aussi invités à ces deux journées de formation organisées par l'ANPAZ, la problématique des violences conjugales en France, de la violence conjugale aux violences intrafamiliales. On se donne donc rendez-vous demain dans La Puce à l'oreille.
La Puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are the children.
La Puce à l'oreille sur Radio Scap 107.